J'ai essayé de bouger l'Europe, mais l'Europe m'a changé.
L'accusation est connue, l'Europe ne serait qu'une machine à produire des règlements.
Les pays de l'Union européenne sont touchés par la montée du chômage. On dit...
Au moment où l'Europe s'interroge sur son choix pour présider l'Union, une enquête...
Ce texte est indispensable au bon...
L'association est financée à près de 50% par des fonds sociaux européens.
Les Européens contestent la méthode chinoise et lui reprochent de mal évaluer les universités d'Europe.
Alors que l'Europe reste ambitieuse et que l'Europe comprenne que le monde a besoin qu'elle prenne des décisions.
La patience a fini par payer.
Europa 27.
Bonjour à vous. Bonjour à vous, auditeurs de Divergence FM. C'est Europe 27, émission numéro 2 de cette première saison qui commence. Au thème de cette émission de ce mois de novembre, c'est la construction européenne d'un point de vue historique. Et pour cette émission, un plateau d'historiens pour une petite leçon d'histoire radiophonique. Ça change des bancs de l'école. Le but de l'émission, comprendre comment l'Europe de 2009 est née et comment elle se poursuivra. Mais l'intérêt étant d'avoir trois points de vue différents avec trois historiens différents que nous avons avec nous. Donc, nous avons Monsieur Muraciol, qui est maître de conférence à Paul Valéry. Nous avons Monsieur Rainer Riemann-Schneider, qui est historien à la retraite, si on peut dire. Et nous avons Monsieur Yves Lebozec, historien à Montpellier. Bonjour, monsieur.
Bonjour, bien longtemps.
Mais avant de rentrer dans le vif du débat, commençons directement avec la revue de presse que nous a préparé Geoffrey
bonjour,
qui co-anime l'émission avec moi. Allons-y pour cette revue de presse de l'Europe du mois de novembre.
Alors, premièrement, nous avons le 3 novembre 2009, Václav Klaus qui a signé finalement le traité de Lisbonne, qui ouvre la voie à l'entrée en vigueur du nouveau fonctionnement des institutions communautaires. Après les Irlandais, la Cour constitutionnelle tchèque vient de ratifier le traité de Lisbonne et obtenir ainsi également les garanties jugées nécessaires par les eurosceptiques tchèques, parmi lesquelles que les descendants des Allemands des Sudètes ne puissent réclamer réparation à la République tchèque pour l'expulsion de leurs aïeux après la Deuxième Guerre mondiale. Ce traité peut maintenant être mis en pratique, remplaçant ainsi le traité de Nice, adopté par le Conseil européen les 7 et 10 décembre 2000. Le traité de Lisbonne doit permettre à l'Union européenne de disposer d'institutions modernes et de méthodes de travail optimisées grâce auxquelles elle devrait relever facilement et efficacement les défis de la mondialisation. Ensuite, nous avons 9 novembre. Donc, chute du mur de Berlin. Et on en a beaucoup parlé dans la presse et j'ai voulu prendre un point de vue différent. Donc je me suis tourné vers l'Express qui proposait une revue des différents blogs allemands sur le sujet. Donc nous avons tout d'abord le site Politblogger qui revient sur la conférence de presse qui a rendu possible la chute du mur. Un montage moderne et des interventions judicieuses soulignent l'enjeu de l'intervention de Schabowski, alors porte-parole du gouvernement de la RDA. Sur le très bon Spreeblick, vous saurez pourquoi la date du 9 novembre est une date clé de l'histoire allemande du XXe siècle. Putsch de la brasserie d'Hitler en 1923, adoption des premières lois antiterroristes en 2001, l'abdication de l'empereur Guillaume II en 1918. Le 9 novembre revient étonnamment souvent dans l'histoire allemande. Ensuite, Netzpolitik, qui est un autre blog, propose une ouverture de mur. Une vidéo tournée 20 ans après montre comment Berlin a définitivement tourné la page du socialisme, notamment à l'est de la ville, autrefois coupée en deux. Ce n'est pas l'avis exprimé sur le dernier blog que je vais citer, Oh What a World, qui, en observant le journal télévisé du 10 novembre 1989, s'aperçoit finalement que peu de choses ont changé. Le premier ministre chrétien-démocrate belge Herman Van Rompuy, enfin, qui vient d'accéder à 62 ans au poste de président du Conseil européen pour 2 ans et demi renouvelables, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Alors il faut savoir que la travailliste britannique Catherine Ashton, actuelle commissaire européenne au commerce, va devenir haute représentante pour les affaires étrangères et vice-présidente de la commission. Cette baronne, issue de la Chambre des Lords, succède à la tête de la diplomatie européenne à l'espagnol Javier Solana. C'est ce qu'ont décidé les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Bruxelles ce jeudi 19 novembre. Les 27 en réunion plénière ont officialisé ce choix dans la soirée. Le dossier s'est débloqué en début d'après-midi lorsque le Premier ministre britannique Gordon Brown a accepté d'abandonner la candidature de son prédécesseur Tony Blair lors d'une réunion avec ses homologues socialistes. Donc j'aimerais demander aux invités ce qu'ils en pensent.
De manière très formelle.
Voilà.
Non. Alors, un point de vue peut-être un peu avec du recul sur la nomination de Van Rompuy à la présidence, si on peut dire, de l'Union européenne. Messieurs ?
Bah, si vous voulez, moi j'aurais un point de vue journalistique. Oui. Hier, à 20h, comme tout couillon français normalement constitué, j'étais devant ma télé et donc j'hésitais entre TF1 et puis France 2 pour écouter le journal. Et donc je zappais comme il se doit entre l'un et l'autre. Je vois les titres, enfin j'écoute les titres du journal de TF1, de France 2 à peu près en même temps parce que maintenant France 2 fait des plans à la con pour commencer à 19h57. Comme ça, t'as les titres de 19h57 de France 2. Tu peux zapper aussitôt sur TF1 pour avoir les titres. Évidemment, alors titre à la une, le foot, la balle, la main, enfin bon, etc. Rien sur l'Europe. Bon, et puis je dis attends, ne zappe pas, continue, je reste sur TF1 France 2, et vers 20h30, Pujadas le premier, et puis Laurence Ferrari quelques 30 secondes plus tard. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. On vient d'apprendre, c'est une rumeur, mais c'est pas sûr, à Bruxelles, il paraît qu'il y aurait un nouveau président de l'Europe, M. Van Rompuy, etc., etc. Il y avait juste un problème, c'est que moi, à 18h45, j'avais un pote belge qui m'avait téléphoné et qui me dit « Oh, vous l'avez dans le cul, ça y est, c'est un Belge qui est président de l'Europe. » Enfin bref. Tout le monde, y compris le Belge de base, le savait à 18h45, sauf la rédaction de TF1 et de France 2. Je plaisante. Je pense qu'ils le savaient aussi. Enfin, alors, deux choses une. Ou c'est des feignants, ils n'ont pas voulu revoir le journal. Ou c'est des incompétents. Mais Monsieur Pujadas, je ne dirais pas, puisque quand même il a fait Sciences Po. Donc ça ne peut pas être un incompétent, ça peut être qu'un fumiste. Bon, donc il y a un problème un petit peu sur ce coup-là, avec le fait que, quand même, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve tout le temps au niveau de la France. L'Europe, il semblerait que tout le monde s'en fout. Et là, quand même, c'est un problème. Alors je sais pas ce que... Mon collègue, M. Burasio l'emporte. Je suis désolé, Yves. J'ai tellement l'habitude d'animer. Et après, je ferme ma gueule.
Non, mais en même temps, Europe 27 est justement là pour parler de l'Europe. Parce que
provoquer le débat.
Parce qu'à la base, cette émission est née simplement sur le constat qu'on ne parlait pas assez de l'Europe et on ne parlait pas de l'Europe de la bonne façon. Donc, M. Murassiol ?
Oui, sur le traitement médiatique, je n'ai pas grand-chose à dire, d'autant que je n'ai pas vu le journal hier. Hein, voilà. Donc, bon. Apparemment, il semble bien que l'affaire la plus importante en France était le match de handball de mercredi soir, hein, comme vous l'avez dit. Bon, apparemment, ça passionne plus les Français.
Oh, bonjour, le lapsus.
Non.
Non, handball. Je comprends bien.
Bon, bref. Est-ce que les Français s'intéressent vraiment à ça? Je ne sais pas. Disons que les deux personnalités que je connais très mal, hein, l'ancien Premier ministre belge Van Rompuy et Mme Ashton, disons que ce ne sont pas des personnalités charismatiques. Voilà. Et qu'il est peut-être un petit peu difficile, quel que soit leur pouvoir, qui par ailleurs sont assez limités dans le cadre des traités. Je doute que ce soit des personnalités, je dirais, qui vont être... peut-être qu'on leur fait un procès d'intention, mais je vois mal comment ces personnalités vont pouvoir fédérer autour d'elles une véritable dynamique, un véritable pouvoir. À voir. D'autant que leurs pouvoirs, vous le savez, sont quand même assez, assez limités. Le Conseil garde l'essentiel des prérogatives.
Mais est-ce que, au point de vue un peu historique, on va dire, est-ce que ça va être une date à garder, une date un peu historique, justement ?
Vous voulez dire la nomination hier de ces deux personnalités ?
Oui, tout à fait.
Personnellement, j'en doute, mais enfin, bon, on peut se tromper. On a déjà du mal à dire ce qui s'est passé, alors ce qui va se passer, c'est... J'en doute. Je pense qu'on retiendra plutôt le 20e anniversaire de la chute du mur dans ce mois de novembre. Disons, disons, l'entrée en application du traité de Lisbonne, ça oui, la nomination de ces deux personnalités, à moins que dans les années qui viennent, elles se révèlent des personnalités exceptionnelles.
Le 20e anniversaire, on le retiendra comme quoi ? Comme un non-événement ?
Non, je...
Parce qu'à Berlin, il n'y a pas eu beaucoup d'Allemands.
Oh.
Non, il y a eu du monde, mais pas beaucoup d'Allemands.
Je n'y étais pas, mais...
On entendait quelques centaines de milliers, quelques centaines de milliers. Ouais. C'est comme si, à Paris, sur un événement majeur, on avait quelques centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Quand on a un événement majeur,
c'est déjà pas mal.
Je veux dire presque une Coupe du Monde de foot, c'est pas quelques centaines de milliers, c'est quelques millions. Ça me semblait assez dérisoire. Et j'ai des copains qui étaient à Berlin ce 9 novembre et qui ont vu effectivement beaucoup, enfin, pas mal de gens, mais pas énormément d'Allemands. Ah.
Monsieur Riemann Schneider.
Bon. Parce que le 9 novembre, Yves, c'est pas forcément la date fabuleuse pour l'Allemagne.
Ah, c'est une date chargée d'histoire, oui.
Je pense qu'on ne peut pas mesurer des événements politiques à l'aune des matchs de foot. Parce que les matchs de foot, ce sont maintenant, de nos jours, les grands événements qui attirent les foules, qui drainent des millions de dollars et d'euros, alors que les événements politiques passent après. De même que, la classe médiatique a relayé... De beaucoup, la classe politique qui passe au second plan, me semble-t-il. Pour ce qui est de l'Europe, effectivement, l'Europe remporte rarement la une des médias, mais je pense que l'Europe est plus importante dans les faits que dans les têtes. Il ne faut pas se leurrer que les institutions européennes, mine de rien, ont façonné pour beaucoup notre civilisation actuelle. Et elle le fera encore davantage dans l'avenir. Et je suis d'accord avec M. Muraciol quand il dit que cette date de l'élection, ou de la nomination, quand on veut, du président européen n'est pas une grande date dans l'histoire. Je suis d'accord. C'est tout à fait à l'image de l'Europe. L'Europe est quelque chose, c'est un phénomène qui... avance à petits pas et très doucement. C'est une évolution, c'est une suite d'événements qui va dans un certain sens et qui, au cours des années, accumule des petits pas qui, en définitive, additionnés, font une somme assez importante.
Très bien.
C'est comme ça, à mon sens, qu'il faut voir cette Union européenne et en elle-même et aussi avec ses antécédents historiques.
Très bien. On aura l'occasion de parler de l'Europe plus en détail et de manière plus, constructive après, donc un petit peu plus tard pendant le débat. Là, c'était juste un petit commentaire sur la revue de presse. Donc on va passer directement
au lexique,
donc c'est moi qui m'y colle.
Et voilà.
Et ce mois-ci, nous avons sélectionné la nymphe Europe, c'est le mot de ce mois-ci que l'on va vous expliquer brièvement. Alors l'Europe c'est un continent avant tout, et c'est un continent qui porte le nom d'une nymphe, et c'est la nymphe Europe. Et il faut savoir qu'étymologiquement, Europe, en grec, et pour le cas de cette nymphe, signifie « celle qui voit loin ». Dans la mythologie, les nymphes sont ces déesses associées à la nature. C'est donc un mythe, c'est celui de Zeus, métamorphosé en taureau blanc, qui séduit la nymphe alors que la jeune vierge se baignait. Le dieu grec emmène la belle sur l'île de Crète, et de leur union naît Minos, premier roi de Crète. Alors voilà pour la petite histoire qui nous ramène loin dans le temps. Donc ce qui est intéressant à relever par rapport à ce nom d'Europe, c'est qu'il est tiré donc d'un mythe, de quoi faire réfléchir sur l'Union européenne. Alors l'Europe, mythe ou réalité, c'est une petite pensée que nous ramenons, envoyons à nos auditeurs pour qu'ils méditent un peu peut-être sur cette question. Et c'est fait pour la nymphe Europe. Et avant de passer au débat, centrale de cette émission, qui est donc l'histoire de la construction européenne. On va écouter un petit morceau de musique. Et donc c'est un morceau de musique libre de groupe Revolution Void. Le nom du morceau, c'est Telluric Undercurrent. Et comme tous les morceaux de musique libre, ils sont donc sous, enfin comme la plupart, comme pas mal de morceaux de musique libre, ils sont sous licence Creative Commons, et c'est la licence 3.0 BY. Voilà, vous êtes bien sur Divergence FM, le 93.9, et c'est la deuxième partie de Europe 27, émission numéro 2, consacrée à l'histoire de l'Union Européenne, qui commence. Donc nous avons autour de nous les historiens M. Muraciol, M. Riemann-Schneider et M. Le Bozec pour parler de la construction européenne. Et le but un peu de ce débat, disons, c'est d'avoir un peu trois points de vue qui diffèrent sur la question de l'Union européenne et de l'Europe d'un point de vue historique. Donc je vais commencer par une question très simple, messieurs.
Sur le plan historique, on ne peut être que d'accord. C'est sur le plan historien où éventuellement on peut différer, non ?
Éventuellement.
Je
ne
sais pas si vous serez d'accord, messieurs.
Oui, 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 oui.
Peut-être de l'historiographie. une question simple. Alors.
Enfin... simple, mais je tiens quand même à préciser, relativement vaste. Hein.
C'est une question vaste, mais ça peut être intéressant pour le débat sur l'Europe.
Donc, bah allons-y.
Donc, pour vous, messieurs, quand est-ce que l'Europe est née, simplement ?
Voilà.
Alors, qui veut prendre la parole en premier ?
Monsieur Muraciol, peut-être ?
Bon, c'est pas un cadeau, hein, votre question. quand est-ce que l'Europe est née ? Tout dépend comment, de quel point de vue on se place. Si on envisage la question... Enfin, si on comprend la question de la façon suivante, quand est-ce qu'est née la construction européenne ? Bon, je pense qu'on peut apporter une réponse assez facile, hein, disons, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'on y reviendra. Si maintenant, vous voulez savoir quand est-ce que l'Europe, en tant qu'idée, ou en tant que, comment dire, qu'ensemble culturel et politique est née, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut se référer à l'Empire romain, hein, on peut remonter très loin, encore que tous les pays actuels, je dirais même, je crois, sans dire de bêtises, je crois que plus de la moitié, du moins du point de vue géographique, plus de la moitié de l'actuelle Union européenne n'a pas été conquis par Rome. Hein. La Scandinavie est restée en dehors de l'Empire romain, l'Écosse, au nord du mur d'Adrien, ben, voilà, pas d'Empire romain. Une bonne moitié de l'Allemagne n'a pas subi la romanisation, la Hongrie non plus, la Pologne non plus, etc. Donc l'Empire romain, bien sûr, hein, mais voilà. Bon, deuxième étape, la chrétienté, évidemment. Hein, l'Europe médiévale, l'Europe chrétienne, avec aussi la prétention de la papauté, de bâtir un ensemble politique. Bon, mais là aussi, les limites apparaissent très vite. D'abord, il y a le grand schisme entre l'Europe catholique et l'Europe orthodoxe. Hein. D'ailleurs, ces deux Europes ne sont jamais retrouvées. Hein. Le mur de Berlin est tombé, mais il y a toujours une Europe orthodoxe, disons grecque et russe, et puis une Europe latine. D'autre part, il y a des minorités non chrétiennes. En Europe, il y a toute une histoire juive extrêmement importante en Europe. Donc, bien sûr, l'Empire romain a façonné l'Europe. Bien sûr, la chrétienté l'a façonné aussi. Et puis, il y a aussi une Europe, disons, plus récente, celle-là, en particulier en France, on va dire laïque, voire anticléricale, qui ne se reconnaît pas du tout non plus dans cette vision-là. Donc, c'est presque impossible de répondre à votre question. Il y a comme cela des strates culturelles, historiques, qui sont accumulées. Quand est-ce que l'Europe est née ? Disons, oui, peut-être, quelque part entre l'Empire romain et l'Occident chrétien. Mais enfin, bon, c'est une réponse extrêmement banale, hein. C'est pas très original.
Alors, est-ce que M. Riemann-Schneider et M. Le Bozec sont d'accord sur la question ?
Oui, la réponse qui a été apportée est, à mon sens, tout à fait pertinente. Des siècles ont façonné, si on veut, une réalité européenne, si on parle du point de vue civilisation. Il y a une civilisation européenne qui se nourrit de substrats gréco-romains. L'apport juif est énorme, bien entendu, comme vous l'avez souligné. Ensuite, se greffe là-dessus l'héritage chrétien. Il faut rappeler que le christianisme devient religion d'État au IVe siècle avec l'empereur...
C'est Constantin.
Avec Constantin, merci. Avec l'empereur Constantin. Et donc, l'église chrétienne catholique, se coule dans le moule de l'administration romaine, de l'Empire romain. Exactement. Et les provinces ecclésiastiques recopient les préfectures de l'Empire romain.
L'Église romaine.
L'Église romaine. Et donc, de là, nous avons un extraordinaire transfert, je dirais, de valeurs culturelles et civilisationnelles de l'Empire romain et plus loin encore de l'Antiquité grecque vers le Moyen-Âge chrétien européen. Donc, l'Église et les monastères en Europe occidentale sont les foyers de transmission de la culture et de la civilisation antique face aux invasions des peuples germaniques qui finalement démolissent l'Empire romain et traversent le limès et s'installent dans l'Empire romain. D'abord, il y a eu quelques casses. Ce qui est normal quand des barbares arrivent, mais très vite ces barbares se sont, si on veut, civilisés et ont adopté la civilisation qu'ils ont trouvée. L'exemple le plus frappant, c'est les noms me manquent. Aidez-moi.
Vous parlez des Ostrogoths, sûrement ?
Non, je ne parle pas des Ostrogoths, mais je parle du roi franc, qui... Clovis, bien entendu.
Ah, Clovis,
voilà.
Oui.
Je parle de Clovis.
Le bon vieux Clovis.
Le bon roi Clovis, qui, lui, est soucieux de s'allier la hiérarchie des évêques gallo-romains pour justement fonder un empire durable. Donc nous avons en quelque sorte une transition de l'Antiquité au monde médiéval. Et après, Clovis. Ensuite, c'est Charlemagne qui, lui, prend à charge l'Empire romain, le Saint-Empire romain, et qui, ensuite, vers l'an 1000, grosso modo, a été repris par les empereurs germaniques en Allemagne. De là, on parle du Saint-Empire romain germanique qui a duré plusieurs siècles. Et c'est un empire qui se voulait, évidemment, un empire chrétien. De là, la très longue tradition de la prédominance chrétienne, catholique, et qui est après contrecarrée, évidemment, avec la réforme luthérienne, qui elle-même, c'est une dialectique, qui elle-même renforce finalement le sentiment européen.
Très bien.
Malgré la diversité.
Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors, monsieur Le Bozec, brièvement, est-ce que vous êtes d'accord sur les Romains ?
Je voudrais revenir sur ce que disait monsieur Muratiol. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que la naissance de l'Europe, véritable, vient de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même si, effectivement, les racines viennent de nettement d'avant, et même, sans remonter jusqu'à Clovis ou des choses comme ça, ne serait-ce qu'Aristide Briand, la Fédération européenne, mais on était dans des prémices. Je voudrais juste une petite précision, parce qu'à mon sens, la naissance vraiment de l'Union européenne, je dis bien de l'Union européenne, celle que nous connaissons aujourd'hui, et hier, à la limite, on apporte presque un exemple éclairant, c'est la naissance du Benelux. Autrement dit, 1er janvier 1948. Ce que moi j'appelle, quand modestement dans mes cours, je fais un cours sur l'histoire de l'Europe, la naissance du laboratoire européen. Dans la mesure où Benelux, Belgique, Néerlandes, Luxembourg, on pouvait imaginer que les Belges, les Néerlandais, les Luxembourgeois pourraient peut-être apprendre à vivre ensemble. Si ces trois peuples, ou soi-disant peuples, pouvaient vivre ensemble, alors on pourrait imaginer que les Européens vivraient ensemble. Parce que les Belges, ça n'existe pas. Ce sont que des Wallons, des Flamands et 1% de Germaniques. Les Hollandais, ça n'existe pas. Ce sont des Flamands, mais qui, eux, sont protestants, tandis que en Belgique, les Flamands sont catholiques. Quant aux Luxembourgeois, ils sont soit français, qu'on ne sait pas s'ils sont wallons ou véritablement français, ou germanophones. Enfin, on ne sait plus trop d'où ils sont véritablement. Dans la mesure où tout ça, c'est-à-dire français, allemand, néerlandais, flamand, pourraient vivre ensemble, catholiques et protestants, alors on pourrait imaginer que l'Europe pourrait avoir un avenir. Ça ne me semble pas tout à fait innocent si M. Van Rompuy est le premier président de l'Union européenne. Ça me semble une revanche, entre guillemets, de l'histoire, mais une bonne revanche. D'aucuns pourraient dire un diktat. Voilà un bon diktat de l'histoire. À savoir que, pour une fois, c'est une revanche pacifique, pas pacifiste, pas à la con. Et c'est là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous. J'ose espérer que M. Van Rompuy sera un grand président de l'Union européenne.
Ah, mais je l'espère
aussi.
Ce garçon
a réussi.
J'ai rien contre lui.
Non, mais il a réussi depuis un an à faire travailler ensemble Wallons et Flamands.
Ah oui.
Alors que la Belgique part en déliquescence absolue, au bout du compte, ça le fait. D'ailleurs, les Belges, j'ai eu un coup de téléphone de ce copain belge dont je parlais tout à l'heure, ils sont vachement contents que ce soit un Flamand, en plus, un Flamand nationaliste, qui plus est. Il n'est pas du Flamsblock.
Francophone, quand même. Hein.
Comme tous les Flamands. Mais à la différence des Wallons, qui ne sont pas néerlandophones. Je parle au nom de ce vieux copain que j'ai qui est flamand, qui est aussi francophone. Mais il y a un véritable problème là-bas. Mais un problème que M. Van Rompuy a priori, semble-t-il, contribué à résoudre. Alors que depuis plus d'un an, il y avait un problème que même M. Leterme n'avait pas résolu. Donc, s'il y a un Européen dans les 27 pays de l'Union européenne, c'est peut-être ce garçon-là, beaucoup plus que l'autre zouave outre-Manche, oui. M. Tony Blair, dont je crois que nous sommes d'accord.
Tout à fait.
Et que les Français et Allemands soient tombés d'accord, je veux dire, celui qui nous représente, ou est censé nous le faire, M. Sarkozy, celui qui vous représente, tant pis pour vous, Mme Merkel. Mais il y a comme un accord là-dessus, et pourquoi pas. Mais ce que je trouve extraordinaire, justement, c'est le fait que ce soit le seul homme qui, de ces 10 dernières années, ait réussi à réconcilier la nation belge, soit celui qui soit en charge, pour la première fois dans la présidence de l'Union européenne, de faire quelque chose. On ne peut pas dire de réconcilier l'Europe, puisqu'elle n'est pas encore déconciliée. Mais de réconcilier... Ça, c'était un premier point. La deuxième chose, c'est vous le représentant de la maison de Heidelberg ?
Non.
Non. Mais vous êtes germaniste quand même.
Oui, je suis germaniste quand même.
Et vous avez insisté sur cette notion de chrétienté, de christianisme à propos de l'Europe. Vous avez rajouté au niveau laïcité aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous avez parlé de Constantin comme le fondateur de la chose. À mon sens, ce serait plutôt Théodose. Ou je serais plutôt plus laïque que vous.
Excusez-moi, mais qui est Théodose ?
Alors, Constantin, c'est celui qui s'est converti. Christianisme. Oui, mais Théodose, c'est celui qui a imposé le christianisme aux citoyens de l'Empire romain. Et à mon sens, c'est plus Théodose qui est partie prenante de la chose. Et d'ailleurs, Benoît XVI, sans le citer, mais s'inspirait beaucoup plus de Théodose que de Constantin. Et le vieux républicain laïque que je suis, zapperait volontiers Théodose, aussi Constantin, mais s'il devait se référer à un des deux, il se référerait uniquement qu'à Constantin et pas à Théodose. Donc là, il y a un problème. Je ne sais plus lequel de vous deux avait parlé ensuite de Turquie. Je crois que justement, la question est là. Ce serait hyper sympa que les Turcs soient dans l'Union européenne. Au moins, il y aurait une minorité importante de non-chrétiens, ce qui obligerait les chrétiens à pratiquer la laïcité. Bonjour les Polonais, s'ils nous entendent.
Donc, au-delà de la naissance de l'Europe en tant qu'entité, quand est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'une véritable conscience européenne, une conscience d'être européen, de faire partie de l'Europe est née ? Pourquoi, surtout, n'y en avait-il pas avant le XXe siècle ?
Interroge M. Muraciol. Je crois que celui Monsieur qui a réfléchi, parmi les premiers, un de ceux qui a réfléchi là-dessus, c'est Charles-Olivier Carbonneil. Sur l'identité européenne, sur qu'est-ce qu'être européen, je ne sais pas si vous avez travaillé avec lui à l'époque, avec Frédéric Rousseau, et tout ça.
De ce point de vue, M. Raymond Schreider est plus placé que moi.
Avec Charles-Olivier Carbonneil.
C'est un bon ami, oui.
Moi, ce fut mon directeur de thèse.
Ah oui, d'accord.
Quelqu'un pour lequel j'ai le plus profond respect.
Bon, alors la conscience européenne, alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas...
existé avant le XXe siècle.
Avant 1957, par exemple.
1957, oui, on peut revenir même à 1950.
Est-ce que les Européens se sentent Européens aujourd'hui, déjà ? Vous avez l'air de considérer que c'est le cas en posant votre question, c'est peut-être pas évident. Pourquoi ne se sent-on pas Européens avant, bon, disons, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour aller vite ? Pour différentes raisons, d'abord. D'abord parce que l'Europe n'existe pas. L'Europe, c'est une entité culturelle, c'est une entité physique, peut-être géographique, mais ça n'est en rien une entité politique. Comment voulez-vous vous sentir européen en 1914, en 1850 ? Ça ne veut rien dire. On peut avoir le sentiment qu'on appartient à une ère culturelle, à une civilisation, mais se sentir européen, politiquement, ça ne veut rien dire. Deuxièmement, parce que il y a un redoutable concurrent, et ce concurrent, ce sont les États-nations. L'Europe a été constituée par des États-nations. Alors, il y a, bien sûr, il y a une tension permanente dans l'histoire de l'Europe entre ce qu'on pourrait appeler le mythe unitaire, le mythe impérial, et régulièrement, il y a des tentatives de... Alors, sur tel ou tel fondement, ça peut être la religion, ça peut être ceci, ça peut être cela. Donc, il y a régulièrement dans l'histoire de l'Europe des tentatives d'unification. La résurgence du mythe impérial en est un très bon exemple, avec d'ailleurs toujours une référence à Rome. Hein, l'Empire napoléonien, lui aussi, se réfère à Rome. Le fils de l'empereur est roi de Rome. Charlemagne est sacré à Rome, etc. Et de l'autre côté, il y a l'autre polarité, peut-être plus forte que la première, c'est l'État-nation. L'État-nation, qui est une réalité indéniable de l'Europe, qui est encore extrêmement forte, et les États-nations ont bâti des constructions à la fois politiques, symboliques, idéologiques, extrêmement puissantes. Puissantes.
Justement, alors comment, messieurs, vous pouvez aussi répondre.
Encore vivante.
Et comment ça se fait que, malgré ces États-nations qui sont très forts, qui veulent rester eux-mêmes États-nations, Comment ça se fait qu'il y a eu ces premiers pays qui se sont rapprochés pour faire un conglomérat à la fin qu'on appelle l'Europe, l'Union européenne ?
Des personnes, des acteurs peut-être de cette construction ?
Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rapprochés finalement, ces pays comme la France, l'Allemagne, etc. ?
Moi, je pense que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale y était déterminante.
Et peut-être de la première déjà.
De la première déjà, qui a montré l'absurdité des nationalismes. Et puis la seconde, surtout, avec les atrocités sans nom qui ont été commises au nom allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que...
Arrêtez de battre votre coupe au nom allemand, non, certes, au nom autrichien, non, aussi mais... au nom français, encore.
Non, c'est très... Non,
avec mais... les nuances, avec non, les nuances qu'il faut apporter. Mais...
Je ne parle pas en tant que moralisateur, je parle en tant qu'historien. Et il doit être permis à un historien de parler de responsabilité devant l'histoire. Et c'est ce que je fais uniquement.
Parle pas de responsabilité d'individu, mais de responsabilité des peuples.
Des peuples, justement. Et puis donc...
M. Buresson n'a pas l'air d'accord, sur la responsabilité du peuple français, sur ce coup-là.
Oui et non. C'est un autre débat. C'est un autre débat.
Au niveau européen, je ne crois pas que ce soit.
C'était
des différences majeures. Les Allemands. J'ai vécu en Allemagne pendant quelques années. Les Allemands travaillent, je crois, depuis 1945 sur le devoir de mémoire. Véritablement, au niveau collège, lycée, même de l'enseignement primaire, ce qui n'est pas le cas du tout en France. Ce qui est moins le cas en France et pas du tout le cas en Autriche. Et c'est vrai que le discours que vous avez, n'importe quel Allemand, mais même ceux qui a 10 ans aujourd'hui ou 80 ans, tient le même discours que vous, ce qui n'est pas le cas en France. Et effectivement, il y a ce débat que Sarkozy a réanimé sur la repentance, plus ou moins de repentance, en faut-il pas vous n'avez pas l'air d'accord là-dessus. Je suis désolé, Yves.
Non, mais on va peut-être pas trop.
J'ai l'impression qu'on glisse sur 50 débats là, mais sur la question de la prise de conscience européenne, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Grimm Schneider. La Seconde Guerre mondiale, c'est un tournant fondamental, clé, voilà. Et c'est précisément la Première Guerre mondiale avait été un moment très important, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sortant de ces massacres, sortant évidemment de l'expérience concentrationnaire, eh bien, une série de grands Européens, d'ailleurs peut-être pas forcément suivis par les peuples dans un premier temps, considèrent qu'il faut dépasser cela. Et surtout, ils considèrent que c'est l'exaltation de l'État-nation qui a poussé à cette catastrophe. Donc, il faut inventer une autre forme qui soit capable, non pas de nier l'État-nation, mais de le dépasser. Voilà. Et ce sera la construction européenne. Avec un autre élément qui est également extrêmement important dans ce contexte-là, c'est le rôle des Américains, qui sont certainement les vrais pères fondateurs, enfin, qui sont parmi les véritables et les premiers pères fondateurs de la construction européenne. Ah bah oui, absolument.
Il semblait que c'était Schuman, Monnet.
Ah oui, Schuman, Monnet, bien sûr. Mais n'oubliez pas que la première institution politique européenne, c'est l'OECE, l'Organisation Européenne de Coopération Économique, qui est littéralement imposée...
Et que Monnet n'était jamais que le cheval de Troie des États-Unis.
Cheval de Troie, je ne sais pas. En tout cas, la première institution politique européenne, transnationale, c'est l'OECE, fondée en 1948, je crois, qui est littéralement imposée par les Américains, qui a officiellement pour but de répartir entre Européens les fonds du plan Marshall, mais qui est en fait une institution éminemment politique. Et le but des Américains est le suivant. Il s'agit en quelque sorte de contraindre, le mot est fort, disons, de pousser les Européens à s'unir pour mieux les protéger, pour mieux les défendre contre ceux dont on n'a pas encore parlé. L'autre repoussoir, donc le premier c'est la guerre, le fascisme, etc. Le second repoussoir c'est l'empire stalinien, qui est l'autre. L'Europe s'est bâtie également contre cela. Donc ce contexte de sortie de la Seconde Guerre mondiale et de déclenchement de la guerre froide est absolument fondamental. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, contre ces deux repoussoirs, en quelque sorte, que naît la construction européenne. Elle est le fruit de quelques grands Européens, bien sûr, ce qu'on appelle les pères fondateurs. Mais le rôle des Américains est essentiel, absolument essentiel. Ce serait un contresens de croire que l'Europe, l'Europe, disons, la construction de l'Europe, s'est bâtie contre les Américains pour essayer de constituer un pôle autonome qui fasse contrepoids. C'est exactement le contraire. Alors qu'ensuite, dans un premier temps, qu'ensuite les Européens aient pu concevoir, certains d'ailleurs, c'est une idée très française, l'europuissance, c'est un thème français. Vous dites ça à un Polonais, il ne comprend pas, un Allemand non plus. Un Allemand peut-être, un Anglais certainement pas. Les Français ont très tendance à concevoir que l'Europe est ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Mais elle n'est pas du tout. Donc ce serait un contresens de croire que l'Europe s'est bâtie contre les Américains. Absolument pas. Elle s'est bâtie avec eux et peut-être même par eux-mêmes.
Mais il y a quelque chose qui est assez bizarre, justement, oui, là-dedans.
Tout à fait, tout à fait. Ce sont les Américains qui ont sommé les Européens à s'unir.
Absolument.
Après la guerre. Ça voudrait dire que si la guerre froide n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas d'Europe ?
Oh ben ça, vous savez, on peut faire des conjectures de toutes sortes. C'est pas à dire. Mais le fait est que justement les circonstances politiques étaient telles que les Américains ont demandé aux Européens de faire un effort, de s'unir, de s'organiser d'un côté contre la menace communiste en Europe. Et face à la guerre de Corée, c'était le deuxième élément où les Américains ont demandé aux Européens de devenir actifs. Et c'est tout à fait, comme dit M. Muracciol, c'est les Français qui ont saisi la balle au bon. C'est Jean Monnet, faut pas oublier Jean Monnet, et Robert Schuman. Ils ont formé un tandem extrêmement heureux, dans l'histoire, de pouvoir prendre l'initiative et de faire de cet amas de décombres de la guerre quelque chose de constructif. Et ils ont donc... Leur première initiative était de voir qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne. Parce que, bon, l'Allemagne était vaincue, mais l'Allemagne était crainte. Et la première tâche à faire pour Monnet et pour Schuman était d'intégrer l'Allemagne dans un projet européen futur. Et je crois que la grande pensée constructive était justement de faire quelque chose avec les Allemands et non pas contre les Allemands. Mais avec les Allemands, en les contrôlant. Et le résultat était la CECA, c'est-à-dire la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui était une idée géniale. C'est une idée de Jean Monnet, d'ailleurs. Et c'est Jean Monnet qui... a accepté cette idée au général de Gaulle.
Mais
au moment où il quittait
justement
le pouvoir.
Par rapport à cette idée, c'est-à-dire que quand on dit que c'est la deuxième guerre mondiale qui finalement a donné au peuple envie de se mettre ensemble, si on peut dire ça, enfin des grands Européens de se mettre ensemble, quand on voit que une des premières choses qui a été faite au niveau européen, c'est la CECA et la CE, qui est la communauté économique européenne, finalement, ça peut être la guerre. Enfin, l'envie de ne pas avoir la guerre qui a été un facteur de l'Europe, mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'économie plutôt que la paix en Europe qui a créé l'Europe ?
Mais il me semble que les deux sont complètement liés.
Ouais.
Y a d'une part, de la part de tous les pères fondateurs de l'Europe, et certes Monnet, certes Schuman, il ne faudrait pas oublier Adenauer, il ne faudrait pas oublier De Gaulle, Henri Spaak, De Gasperi... Hein. Enfin, bref, tous les pères fondateurs qui ont tous vécu, comme vous le disiez, M. Muracciol, la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Et c'est plus jamais ça. C'est on veut la paix, mais on veut la paix définitivement, pas à la Aristide Briand, pas arrière les fusils, arrière les mitraillettes à la SDN. On veut quelque chose de vrai, de pur, de définitif. Et la seule solution, c'est quand même le porte-monnaie commun. Et le porte-monnaie commun... Comme vous le disiez, ce sera la CECA, on met le charbon et l'acier déjà dans le même porte-monnaie. Mmh. En 62, on mettra la politique agricole commune, puis on mettra la sidérurgie, puis etc., puis on mettra la monnaie, et puis tout ce qui va avec, on y met même maintenant le président, le ministre des Affaires étrangères, enfin un porte-monnaie. Je crois que c'est la chose la plus extraordinaire, et au niveau de nos auditeurs, je ne sais pas si c'est la seule chose qu'ils doivent retenir au niveau de l'Europe. Ça fait 65 ans, en gros, que la Seconde Guerre mondiale est finie. Nous sommes la seule génération, à moins que vous me contredisiez, de l'histoire, mais je dis bien de l'histoire mondiale, européenne. 65 ans où nous n'avons pas connu la guerre. C'est pas exceptionnel, c'est jamais arrivé. Ah non, pas du tout connu la guerre. Pas à la façon de Le Goff au XIIIe siècle, où soi-disant c'est un siècle fabuleux, et il avait oublié quand même la guerre contre les Qatars et différentes anicroches, à droite ou à gauche. Non, véritablement la paix. Moi je suis né en 53. Depuis 53, j'ai entendu parler de la guerre. Ailleurs, je ne connais pas la guerre. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est fabuleux, c'est extraordinaire.
Par contre,
et je crois que les pères fondateurs de l'Europe, c'est ça qu'on leur doit. Rien d'autre chose que ça.
Donc 60 ans de paix, une communauté économique qui s'est instaurée.
60 ans, c'est une vie.
Voilà, mais une communauté économique qui s'est instaurée, le traité de Lisbonne qui vient d'être signé. Moi, j'aurais une question à poser. C'est à quand le duel États-Unis d'Amérique et États-Unis d'Europe? Parce qu'on s'achemine vers une Europe fédérale.
Un siècle ou deux, non?
Un duel, vous dites? Un duel? J'espère qu'il n'y aura pas de duel.
Je parle de duel au sens économique du terme.
Non, j'espère qu'il n'y aura pas de duel entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Parce que nous n'en avons pas besoin. Ce qu'il nous faut, c'est une synergie entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe.
Donc les États-Unis d'Occident?
Non, un match de foot.
Sur la paix, je voulais juste revenir un petit peu sur la paix, parce que bon, c'est quand même la question centrale. L'Europe a été bâtie au lendemain de deux guerres terribles, 55 millions de morts, bon, pour la seconde. Bien sûr, elle a effectivement garanti la paix. C'est indéniable, et c'est vrai que la génération qui est née au lendemain de la guerre est la première génération en Europe qui n'a pas connu la guerre. Voilà, c'est absolument neuf. Et qui ne la
connaît toujours pas aujourd'hui, quoi.
Alors, ça, c'est à voir. J'y viens.
Alors, ce qui nous concerne.
Et qui nous concerne, nous. Mais l'Europe ne se limite pas à l'euro.
L'Union européenne.
L'Union européenne, c'est vrai. Mais, vous avez tellement raison que l'idée même d'une guerre entre Français et Allemands est tellement absurde qu'on a du mal à se le représenter. Alors que, pour nos grands-pères, c'était l'inverse qui était.
Une évidence, enfin.
On se préparait à la guerre. 70, 14, 45. Bon.
Nos pères.
Absolument. Cela dit, bon, au risque de, comment dire, de provoquer peut-être un petit peu, deux remarques. Est-ce que, donc, une période de paix incontestable. Incontestable, au point même que l'idée de guerre nous est presque absurde. Tout en n'oubliant pas que l'Europe a certainement été le continent le plus violent de toute l'histoire. Quand Donald Rumsfeld, dans les années 2003, évoquait la vieille Europe pacifique, c'est une absurdité sans nom. Le sol d'Europe...
C'est Wittmann qui évoquait ça.
Non, c'était Rumsfeld, la vieille Europe et la nouvelle Europe. Ah ouais. Le sol de l'Europe est gorgé de morts, gorgé de sang, gorgé de cadavres. Il y a peu de continents...
Il suffit d'aller passer ses vacances en Lorraine.
Mais partout. Et on s'est battu partout, et de façon terrible, et il y a peu de continents, encore une fois, qui aient à ce point porté la violence. Mais, deux petites remarques. Première remarque, est-ce que, pour autant, c'est la construction européenne qui a garanti cette paix? Elle y a contribué, mais on pourrait tout aussi bien affirmer que c'est malheureusement la guerre froide, le jet de la guerre froide qui
et
a...
Hollywood,
je ne sais pas, mais la guerre
les
froide
Américains.
Qui a imposé cette guerre. Et la preuve en est que lorsque ce gel de la guerre froide a commencé, disons, à se réchauffer, la guerre est revenue en Europe. La guerre
Yougoslavie, est revenue,
200 000 morts, c'est quand même pas rien, et l'Union européenne était totalement incapable.
Oh, mais c'est un contrat marchand entre l'Allemagne et la France, entre la Croatie et puis la Serbie.
Ça, écoutez, j'en sais rien,
non.
Mais le fait est que la guerre...
Ne dites pas que vous n'en savez rien, non.
Ah non, j'en sais rien du tout, je doute qu'on ait, comme ça, bon, le mythe du complot, et j'y crois pas trop.
Non, c'est pas un complot. Que la France soit l'ami de la Serbie, c'était pas...
Ah oui, dans ce sens-là.
Que
oui.
La Croatie soit l'ami de l'Allemagne, non plus. Que la France ait vendu des armes à la Serbie, c'est de l'autorité publique. Que l'Allemagne ait vendu des armes à la Croatie, c'est de l'autorité moins publique, parce que c'est passé par la Tchécoslovaquie et éventuellement par le Vatican. Mais pas plus. Donc,
Moi, j'ai pas de renseignements là-dessus. Simplement, ce que j'observe, c'est que la guerre, elle est pas partie pour toujours. Qu'elle est revenue, 200 000 morts, c'est quand même pas rien en pleine année 90, et que l'Union européenne s'est avérée totalement incapable de mettre fin à cette guerre, et ce sont les Américains qui ont mis fin à cette guerre. Alors, bon, voilà, ne soyons pas non plus trop satisfaits, les choses sont toujours menaçantes, et le spectre de la guerre, nous avons eu la guerre de Géorgie, alors, la Géorgie est-elle en Europe? Vaste débat, mais enfin, nous avons eu une guerre en Géorgie il n'y a pas si longtemps. On pourrait tout aussi bien soutenir la thèse que ce maintien presque miraculeux de la paix en Europe, dans ce continent si vraiment gorgé de guerre et dans son histoire, il est aussi, malheureusement, le résultat de la dissuasion nucléaire qui a complètement figé la situation pour une cinquantaine d'années en Europe. Et quand cette dissuasion a commencé à se fissurer, comme par hasard, la guerre est revenue. Alors,
Écoutez, merci messieurs, mais malheureusement le temps file à une vitesse assez incroyable, et on va devoir mettre fin déjà à ce débat, on va devoir le clore.
Malheureusement.
Et donc merci en tout cas messieurs, oui, de nous beaucoup. Avoir apporté des plus de détails sur la question de la paix en Europe et la façon dont elle s'est créée. Merci à monsieur Muratiol, merci à monsieur Riemann Schneiderman et à monsieur Le Bozec.
Merci pour cette émission fort bien organisée. Oui, bon,
tout à fait. Et donc nous écoutons déjà en fond, on peut l'entendre, c'est Noir Désir à l'arrière des taxis.
Maïakovski, leur sourire à peine éteint, et les sangs vont croire.